France Culture.
Les pieds sur terre, Karine Leloette.
Vous l'avez peut-être aperçu dans les rues de Lyon, sur les murs d'une école. Une immense banderole rouge barrée de lettres blanches qui annonce « Des enfants dorment ici ». Elle est l'œuvre du collectif « Jamais sans toi », qui alerte sur la situation d'élèves à la rue et occupe des établissements scolaires pour les loger. Rien que dans la métropole lyonnaise, 17 écoles accueillent aujourd'hui 25 familles. Et depuis 2014, une soixantaine d'établissements ont servi de refuge temporaire à plus de 1000 enfants. Évidemment, le phénomène n'existe pas qu'à Lyon. À Strasbourg, à Rennes, à Paris, d'autres enfants, soutenus par d'autres collectifs, sont accueillis la nuit dans les écoles. Parce que depuis le Covid, le sans-abrisme infantile explose. Il a grimpé de 133% depuis 2020. La faute à l'inflation qui a précipité des familles dans la pauvreté, à la multiplication des expulsions locatives, à la pénurie de logements sociaux. Alors, les solutions d'urgence, qui devraient être éphémères, se multiplient et surtout s'éternisent. L'année dernière, les familles installées dans les écoles y restaient en moyenne plus de 6 mois, avec le soutien financier de parents d'élèves, de profs, d'habitants du quartier. Une générosité citoyenne pour pallier les carences de l'État. Loin des chiffres, c'est une famille logée dans une école lyonnaise que nous vous proposons aujourd'hui de rencontrer. C'est un reportage d'Émilie Chaudet.
Je m'appelle Lucie et j'ai 16 ans. Je suis en seconde. J'avais 10 ans quand j'ai quitté l'Angola. Ça s'est fait assez vite, je crois. Au début, je ne croyais pas que j'allais vivre en France. Je croyais que c'était plus pour des vacances. Puis, je crois que c'est au fil du temps que j'ai réalisé que j'allais vivre ici et plus là-bas. En arrivant en France, on était au 115 à Dijon. Il y avait plusieurs familles avec nous. Puis, on était tous dans une chambre. Moi, ma mère, mon père, mon frère et ma sœur. Et ils nous donnaient le petit déjeuner et le dîner. Le matin, on devait se réveiller tôt, prendre une douche, se brosser les dents, parce que c'était des douches communes. Puis on devait partir le matin parce que le reste de la journée, on ne pouvait pas rester là-bas parce que, en gros, les personnes qui passaient la nuit avec nous, enfin, nous surveillaient, ils devaient rentrer chez eux. Du coup, toute la journée, on devait trouver un endroit où rester pendant que le 115 était fermé. Du coup, il y avait des associations où on allait manger l'après-midi. Il y avait le Secours populaire, puis il y avait plusieurs églises où on allait manger. C'était assez bizarre, si je peux dire ça comme ça. En fait, je réalisais pas vraiment ce qui se passait sur le moment. Enfin, c'était différent de ma vie en Angola. J'entendais les gens parler une langue que je ne connaissais pas. Enfin, c'est comme si j'étais dans un autre monde.
Je m'appelle Lina et j'ai 12 ans. Je suis née en Angola. Quand je suis arrivée en France, je pense que j'avais 5 ans ou 6 ans. Quand on est arrivé à l'aéroport, au début j'avais un peu peur, mais après j'ai été excitée. Parce que c'était la première fois que j'allais en France.
Qu'est-ce que tu imaginais de la France ?
Un pays super bien, que tout se passait bien. On avait une vie comme les autres, on avait une vie normale. À peu près quand j'étais plus petite et que je voyais dans les dessins animés. Des trucs de la Tour Eiffel ou par exemple du Louvre, parfois je voyais ça. C'était trop beau et j'ai appris que vu qu'en Europe, la France, parfois il y a de la neige. Et j'ai cru que quand j'allais venir, j'allais voir beaucoup de neige. Mais pas du tout. J'ai été déçue quand même.
On est parti à Digouin, c'est un petit village, et on était dans un foyer avec d'autres familles aussi. Et puis c'est à partir de Digouin où j'ai commencé à aller à l'école, dans une classe du PE2A avec d'autres enfants qui arrivent d'autres pays, pour apprendre à parler le français. Pour apprendre le français, j'écoutais beaucoup de musique, Soprano, Vita, Silman, du Aya Nakamura, Gims, Nono La Grinta, L2B, un peu tout. Je regardais la télé, enfin je regardais des dessins animés. Comme dessins animés, je regardais beaucoup Tintin. Chaque fois, je regardais ça avec ma sœur, donc je crois que c'est un peu grâce aussi à ce dessin animé que j'ai appris à parler le français. Puis je pratiquais aussi à l'école avec les copains-copines.
Bah, j'ai pas trop aimé l'école parce qu'il y en a qui se moquaient de moi parce que je parlais pas français et que quand tu sais pas parler la langue, et bah ces quatre enfants ils étaient très méchants. Et parce que j'avais pas les mêmes cheveux que eux. Un jour j'ai dit à ma mère, et ma mère elle est partie pour les maîtresses, elle a parlé avec eux, elle a dit qu'elle allait arranger ça pour qu'elle dise pardon. Elle avait dit pardon, mais ça a continué quand même.
Ce qui nous a amené à Lyon, c'était il y a 2 ans, du coup, j'avais 14 ans. Une nuit, mes parents discutaient beaucoup dans le salon. Du coup, moi et ma soeur endormaient. Moi, je me suis réveillée soudain et puis j'entendais mes parents crier. Enfin, je comprenais pas vraiment. Puis ma mère tape à la porte et dit que la police elle est là.
Et elle nous a dit qu'on devait partir, qu'on va devoir retourner en Angola. Et après j'ai vu un monsieur passer derrière elle et qui est rentré dans la chambre de mon père et de mon petit frère. Sur son bras il y avait une étiquette autour écrit police. Et du coup après quand j'ai vu le policier, et c'est là où j'ai paniqué et je comprenais pas pourquoi.
On a eu un QTF, c'est quitter le territoire français. Du coup, ils sont arrivés dans l'appartement pour nous demander de sortir et préparer nos valises. Puis, en quelques minutes, j'entends ma mère crier, mon père crier. Enfin, je vois deux grands policiers, du coup, plus grands que ma mère, qui étaient presque sur elle. Puis, mon père me notait dans le couloir devant la porte. Et puis, je leur demandais juste de ne pas leur faire du mal, enfin... J'étais en pleurs. Ils nous ont enfermés dans la chambre avec mes 3 frères et sœurs. Et puis 2 policiers dans la chambre avec nous. Puis on ne pouvait pas aller voir ce qui se passait. Enfin,
Moi, je faisais que de pleurer. Mais ma petite sœur, heureusement qu'elle n'avait pas tout vu parce qu'elle était en train de dormir. Mais sauf qu'après, ils se sont réveillés et ils sont restés dans le salon. Mon père, il était attaché. Et ils ont juste mis les menottes pour que... Mes parents se calment. Mais après, ils l'ont détaché pour qu'on fasse les valises.
On a commencé à ranger nos affaires. J'ai pris les choses qui étaient dans les armoires. Puis on avait commencé à ranger nos valises. On a quitté l'appartement. Donc il y avait 2 voitures. J'étais montée dans une voiture avec ma mère et ma petite sœur. Puis l'autre voiture, mon père, mon frère et mon autre sœur. Puis ils sont partis. On a fait, je crois, 5 heures de route jusqu'à Paris. On est resté 4 heures dans un centre de détention. Et on est ressorti du centre de détention.
Quand on est arrivé à l'aéroport, ils nous disent que l'avion va bientôt arriver. Pour qu'au final, après, il y a une dame qui nous dit que l'avion elle a été annulé.
Ils nous ont dit qu'il n'y avait plus de vol pour nous ramener en Angola. Du coup, ils nous ont abandonnés à l'aéroport à Paris. La seule chose qu'ils nous ont dit, c'est de ne plus retourner où on était. Mes parents ont dû trouver vite une solution pour savoir ce qu'ils allaient faire dans les prochains jours à venir. On est resté, je crois, 2 jours à Paris. On était au 115. À Paris, c'était trop rempli. Il y avait beaucoup de monde. Puis on est venu à Lyon. À un moment, on était dans un arrêt de bus. Puis... une dame nous avait hébergés chez elle pendant quelques mois, je crois. Et puis, nos parents se sont séparés quelques mois après être arrivés à Lyon. Elle est restée seule avec moi et mes frères et sœurs.
Leur mariage ici compte pas. Du coup, leur divorce aussi compte pas. Ma mère, elle a préféré aller d'un côté et mon père de l'autre. J'avais compris qu'ils allaient se séparer. Ils se parlaient pas trop.
On était restés un moment dans un camping à Trévoux. Puis après, on était partis dans un appartement à Bellecour. Puis ma mère, elle a demandé de l'aide à une association qui nous a hébergés pendant quelques mois. On partageait avec d'autres femmes. Puis elle a demandé de l'aide à l'école de mes frères et sœurs. Et puis on est hébergés depuis bientôt un an. Donc c'est une grande école avec une grande cour. Puis l'endroit où on dort, c'est dans une salle de classe, dans des lieux gonflables. Moi, je dors à côté de ma sœur, Lina. Il y a un autre matelas à côté de celui, ouais. Il y a mon petit frère, puis il y a ma mère, puis il y a mon autre sœur. Mes petits frères et sœurs ont leurs jouets. Il y a des tables comme dans une classe normale, puis il y a nos affaires aussi.
On ne peut plus trop rester à l'école parce qu'il y a des classes maintenant et qu'on peut faire du bruit ou que ça peut déranger. Du coup, on est obligé de rester dehors. On ne peut pas rester ici, on doit sortir d'ici avant 8h30. Et on doit toujours se réveiller tôt, 6h50, 6h30. Et on est fatigué. Mais je passe ma journée au collège et après je reviens ici. Sauf qu'en ce moment, les maîtresses, elles ont tout le temps des réunions et on est obligé de rester parfois dehors. Donc jusqu'à 18h. Et que je suis au collège, parfois je finis à 15h. Il y a des jours que je finis très tôt et je peux pas revenir à l'école. Je reste sur mon téléphone, je regarde des films ou des vidéos. Et après, je rentre. J'ai fait mes devoirs, j'ai révisé. Et après, je vais parler avec mes copines sur Snap. Oh, mais pas dur. Je peux pas dire de quoi on parle, c'est trop privé.
On parle de tout et n'importe quoi avec ce que tu racontes.
C'est important d'être une bonne élève ?
Oui. Oui.
Par exemple, cette année, c'est mes notes qui m'aideront à choisir mes spécialités. J'ai envie d'être avocate, de défendre les gens parce que je me dis que tout le monde a le droit à une deuxième chance. Normalement, pendant les vacances scolaires, on reste, on a les clés, enfin, et puis voilà. C'est très compliqué en fait, des fois. Je me dis que j'aimerais juste avoir une vie normale, comme plein d'ados de mon âge. C'est comme ça. Mes copines, elles ont des parents qui travaillent, une maison, une vie stable. Elles n'ont pas besoin de déménager tous les 2 ou 3 mois ou un an. Sinon, mes copines ne sont pas toutes au courant de ma situation. Il y en a 4 qui sont au courant, sinon tout le reste n'est pas au courant. J'aime pas en parler parce que pas forcément envie de leur dire ça, puis voilà. Je dirais que c'est une question de honte. J'angoisse un peu, sachant que beaucoup de jeunes de mon âge, je dis pas tous, mais beaucoup, je sais qu'il y en a beaucoup qui se permettent de juger tout simplement. Je raconte un truc, ils sont toujours là pour juger, pour rabaisser les autres. Ils n'essayent pas de se mettre à ta place. Je crois que c'est une génération qui n'essaie pas de comprendre la situation des autres. Puis voilà.
Bah, j'ai beaucoup de copines. Elles sont plutôt gentilles avec moi. Et c'est plus que meilleures amies. C'est à peu près comme mes sœurs ou mes cousines. Je les considère comme des personnes de ma famille, même si on n'a pas les mêmes origines ou la religion. Et moi, j'ai peur que les gens restent plus trop avec moi, parfois qu'ils me mettent à l'écart, parce que je suis dans une école et eux, ils sont dans un appartement ou une maison.
On cache assez nos sentiments. Des fois, quand c'est dur, bah, on fait comme si rien n'était parce que on n'a pas envie d'être tous dans le mal, donc, je préfère garder ça pour moi. Puis quand c'est dur, bah, je prends sur moi et puis je me dis ça va aller. Puis voilà, c'est tout. J'écoute de la musique quand je suis triste normalement. Bah, je me confie pas aux gens. Donc, oui, des fois ça marche et puis des fois ça marche pas. Donc, dans tous les cas, ça ira après. J'ai peur de me retrouver à la rue. Ça me fait peur. Je crois que si j'en arrive à là, je pleurerai beaucoup.
Vous pouvez me faire visiter un petit peu votre chez vous?
En gros, dans les armoires, on garde nos vêtements. Dans les valises aussi, il y a des vêtements. Puis, on dort là-bas.
Vous dormez tous côte à côte, alors?
Oui.
Malheureusement. Le soir, y a des personnes qui viennent en bas, ils jouent au foot. Et du coup, on est obligé de mettre les rideaux pour qu'ils ne nous voient pas. Parce que s'ils nous voient, ils vont remonter. Jack, la dernière fois, ils étaient montés. Nous, on était au parc.
On était sortis au parc et... Vu qu'en fait, on avait laissé la porte ouverte, les jeunes, ils jouent au foot dans la cour. Puis, ils sont montés, ils ont regardé, ils ont ouvert les armoires, mais sinon...
Quand on est remonté, on les a vus, ils étaient en train de partir en courant. Et après, voilà. C'est des grands, c'est des ceux qui sont secondes ou premières ou troisièmes.
Et de voir de la lumière la nuit dans une salle de classe, ça intrigue des gens qui passent en bas, c'est ça?
Oui, mais du coup, on l'allume pas. Tout est éteint. Enfin, on allume le flash de nos téléphones. Ici, c'est l'endroit où on utilise de cuisine. C'est la cuisine des professeurs.
Et le soir, on reste plutôt dans la cuisine.
Oui, on ne peut pas allumer les lumières. On essaye d'allumer le téléphone pour les enfants faire le devoir. Par exemple, aujourd'hui, la grande, elle est en train de faire le devoir. La profite. Quand il fait 18h, c'est fini, on n'a plus de devoirs.
Vous vivez avec la sonnerie toutes les heures?
Toutes les heures, oui. Tous les mercredis. Quand je demande aux enfants de faire la sieste, ils se réveillent le moment qui était allumée la sonnerie.
La première sonnerie, elle est à quelle heure?
À 8h30. Dans la journée, j'essaie de chercher du travail. Je cherche des formations gratuites. Par rapport à ma situation, je ne peux pas faire des formations régulières comme les autres. Je devais chercher des endroits pour faire des formations gratuites, mais je ne trouve pas. Mais quand même, j'essaie, je cherche dans l'Internet. Et aussi, je postule sur une aide. C'est un site Internet d'emploi, une recherche d'emploi. Je commence à postuler partout. En fait, j'ai déjà travaillé dans le nettoyage, en agent d'entretien. Et j'ai fait une formation de restauration. Je cherche dans la restauration rapide, d'aide ménager. Je vais aller dans des rendez-vous, je rentre, je fais à manger pour les enfants. Et à 16h, je cherche à l'école, je donne à manger, je donne la douche. Mais en ce moment, on fait tous dans speed, j'ai fait tout dans la vitesse. Parce qu'ici, on ne peut pas allumer la lumière.
Michael, éloigne les jeux, s'il vous plaît. Hein? Faut ranger tout, faut ranger.
Mais maman.
Oui.
Tu vois la boîte où il y a des gâteaux dedans.
Non, arrête de manger des gâteaux.
Non, mais quand j'ai fini.
Quand tu vas finir, ça va. Non.
Je suis une maîtresse de l'école, et cette école qui est occupée depuis bientôt un an. Nous avons su que l'école avait inscrit une famille qui allait être sans toit. Et c'est avec l'aide en fait, du périscolaire qu'on a réussi à occuper l'école ce premier soir. Mais quand même, pour rassurer l'équipe du périscolaire, j'ai accepté de dormir sur place moi aussi. Alors, on venait de tout installer, on n'osait pas trop allumer la lumière parce qu'il ne fallait pas que les voisins des grands immeubles d'en face qu'on voit là-bas puissent voir de la lumière et, par exemple, appellent la police, qu'il ne fallait surtout pas se faire remarquer. La nuit est passée très vite, on a eu tous froid cette nuit-là. J'avais acheté des matelas gonflables, mais c'était la première fois que je dormais sur un matelas gonflable, je ne savais pas que c'était aussi froid. Le matin, je sais que je me suis levée très tôt pour rejoindre ma classe, en fait. C'est la seule nuit où j'ai dû dormir sur place, parce que comme ils étaient en totale autonomie ici, il n'y avait pas besoin d'être avec eux. J'ignorais tout d'eux, à part de leur pays d'origine, quoi, et c'est à peu près tout. Petit à petit, j'ai compris que Noël leur tenait à cœur. Et il se trouve que c'était justement les vacances de fin d'année. Ça leur tenait à cœur parce que l'année précédente, pendant les vacances de fin d'année 2023, c'est cette période-là où ils ont passé plusieurs nuits dehors. Donc ils n'ont pas eu de Noël. Alors, en tout, ils ont dû rester, je crois, 6 jours chez moi. Et tout le temps où ils sont restés chez moi, on a passé tout notre temps à préparer le jour de Noël, où là, ça a été plein de plats préparés, plein de petits cadeaux qu'on avait réussi à dégoter grâce notamment à mes collègues qui avaient fait une cagnotte. Donc ça a été une journée extrêmement festive, en fait, ce jour-là. Il y avait mes 2 enfants également qui étaient là. Et c'était un peu en famille, on va dire, voilà. J'ai trouvé ça très joyeux, très agréable. Et quand ce moment festif est passé, comme ils ne pouvaient pas revenir à l'école, elle était toujours fermée, on les a accompagnés dans une auberge de jeunesse qui n'est pas très très loin de chez moi. Et là, ils ont passé le reste des vacances, c'est-à-dire encore une dizaine de jours, jusqu'à ce qu'ils puissent réintégrer l'école le lundi de la rentrée. Alors, le directeur, l'année écoulée, donc, où il a été très soutenant pour nous, après, il a changé de ton. On a dû lui mettre la pression, certainement. Voilà. Tout de suite, à la rentrée, l'inspectrice d'académie nous a demandé de venir discuter avec elle de la situation. Nous, la petite poignée d'enseignantes. Alors, cet entretien avec l'inspectrice a été un bon remontage de bretelles dans les règles. On s'est fait engueuler, quoi. On s'est fait engueuler parce que on était inconscientes, on avait permis ça. C'est nous qui portions toute la responsabilité. Voilà, non, à aucun moment, elle a dit qu'on avait fait notre devoir ou que cette famille était très vulnérable et qu'effectivement, c'était ça qui primait sur le reste. Donc nous, on était un peu comme des mauvais élèves, il fallait quand même nous recadrer, quoi. Après, bien sûr, elle s'est bien radoucie au bout d'une demi-heure. C'est-à-dire, je pense qu'elle s'était programmée un petit peu pour d'abord nous enfoncer, puis ensuite être un peu à notre écoute. Mais ça a quand même été un moment difficile. C'est cette famille était hébergée jusqu'au mois de juin, jusqu'à la fin de l'année scolaire. Mais on n'a pas pu arrêter l'occupation d'école en juin, puisqu'il n'y a pas eu une seule proposition faite ni de la métropole ni de la mairie pour qu'il y ait autre chose pour cette famille. Il a bien fallu qu'on poursuive l'occupation. Et on est toujours dans la même situation. Donc le seul arrangement qui a été possible, c'était de dire on occupe toujours, mais par contre, il faut que la famille soit dehors toute la journée, à partir du moment où le bâtiment est fréquenté par des élèves. On n'a plus le droit d'avoir des personnes de l'extérieur dans l'école. Alors donc la famille reste mercredi, samedi, dimanche. Mais elle doit partir avant que les élèves arrivent et doit revenir seulement quand tous les élèves sont partis. Mais à l'heure actuelle, il n'y a aucune proposition de la mairie, de la métropole, aucune perspective, rien.
C'était une émission d'Émilie Chaudet réalisée par Emmanuel Geoffroy. Merci à Lucie, Lina, leur maman et leurs petits frères et sœurs, ainsi qu'aux institutrices qui accompagnent cette famille. Merci aussi à Juliette Murtin, Raphaël Villiez et Antoine Bourreau du collectif Jamais sans toi et à Samira Dadache de la FCPE de Lyon. L'attachée de production des Pieds sur Terre, c'est Valentin Rémy et notre stagiaire, c'est Luce Mourant. And it's not that you're not the one. And it's not that you're not the one. But we all need a little peace. Do you feel a little broken? 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 Tell me why we're going so fast. Never used to run. And I'm running out of words. I still love you like the very first time.